Bon, on va parler de l'esprit autoritaire dans le leadership. C'est triste de constater que la compréhension générale à propos de l'autorité dans l'Église se limite souvent à interdire ou à commander des choses. Mais pour bien comprendre c'est quoi l'autorité spirituelle, on va premièrement définir ce qu'elle est pour. Je tiens à mettre quelque chose au clair tout de suite avant de partir. Je sais que cette série de cassettes-là sur l'autorité spirituelle mal placée n'est pas tellement flatteuse pour les pasteurs. Je m'en excuse profondément, mais c'était nécessaire parce que je suis convaincu que ça répond à un besoin réel dans l'Église d'aujourd'hui. C'est un peu triste pour moi d'être obligé de faire ça parce que c'est évident que c'est pas tous les pasteurs qui sont autoritaires, qui s'imposent aux gens, qui se prêchent eux-mêmes puis qui travaillent à se donner plus d'autorité qu'ils en ont réellement. Je suis conscient qu'il existe aussi un grave problème de rébellion puis de manque d'enseignabilité chez les croyants face à leurs pasteurs également. Puis inquiétez-vous pas, j'ai bonne intention de faire un message ou deux à ce sujet-là aussi. Je prie Dieu pour ce que je veux dire dans les minutes qui vont suivre soit bien reçu par tout le monde, puis que ça serve à la plus grande gloire de Dieu. Un berger ou un pasteur, c'est pas quelqu'un qui se place derrière le troupeau puis qui s'assert de la Bible comme d'une baguette avec laquelle il fait avancer les gens. C'est plutôt quelqu'un qui se tient devant le troupeau puis qui lui propose de suivre ses propres traces puis de l'accompagner dans son propre pèlerinage dans la foi. C'est ça qui fait toute la différence entre dominer l'Église ou être un modèle pour elle. Paul a dit quelque part, « Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. » Paul n'a pas dit, « C'est moi l'apôtre ici, puis vous allez m'être soumis, puis vous allez faire ce que je vous dis. » Mais il a dit, « Je vous en conjure, soyez mes imitateurs. » Quand Paul voulait amener les croyants à adopter une certaine conduite, il n'imposait pas son autorité, mais il plaidait avec les gens, puis il leur montrait un exemple. En Matthieu 11, 29, Jésus a dit, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. » La douceur puis l'humilité de Jésus décrivent bien avec quelle attitude il exerçait son autorité sur ses disciples. Ni dureté, ni rudesse, ni inflexibilité. La dureté n'est pas dans l'autorité. Quand Jésus a dit, « Prenez mon joug », on voit que Jésus a offert son ministère, qu'il a proposé son leadership à ses disciples, puis qu'il ne s'est pas imposé à eux autres. La douceur puis l'humilité sont d'excellents moyens de reconnaître un authentique don ministère de pasteur. L'homme qui s'impose à l'Église vient jamais de Dieu. La douceur, c'est la marque d'un vrai leadership de pasteur. Mais contrairement à la douceur, il y en a qui ont un esprit autoritaire puis imposant. Proverbe 29, 2 nous dit, « Quand le méchant domine, le peuple gémit. » Les gémissements des croyants dans certaines églises témoignent souvent d'un mauvais leadership. En 2 Corinthiens 1, 24, Paul a dit, « Non pas que nous dominions sur votre foi, mais nous contribuons à votre joie. » On voit ici que l'autorité n'a pas été donnée pour dominer sur les croyants, mais pour contribuer à leur joie, leur apporter quelque chose spirituellement. Un pasteur est un panseur de blessures, un médecin spirituel en quelque sorte. Il y en a qui se sont apparemment égarés loin de cette vérité-là. Au jour du grand jugement universel de l'Église, qu'on a en Matthieu 25, Jésus-Christ jugera pas les conducteurs spirituels à la taille de leur Église, mais à la charité, à la douceur, puis à la sollicitude désintéressée qu'ils auront eue ou auront pas eue à l'égard des membres de l'Église qu'ils auront fait paître. Un jour, un croyant avait un problème de conscience à propos de certaines choses que le pasteur de son Église enseignait. Le chrétien avait d'autres convictions, puis il jugeait qu'il serait bon pour lui de ne pas se conformer à ce que le pasteur lui demandait. Le jeune pasteur venait d'arriver dans son nouveau ministère après une longue formation de 3 ans dans une école biblique, alors étant revêtu avec autant d'autorité spirituelle, c'était totalement inacceptable pour lui que quelqu'un ne soit pas d'accord avec la direction qu'il donnait à l'Église. Bon, il a pris le chrétien à part après la réunion, puis il lui a lancé son ultimatum. « Veux-tu marcher avec moi, oui ou non? » Bon, le croyant a répondu, « Écoute, avant tout, je veux marcher avec le Seigneur. » Le pasteur, ben, il s'est irrité encore plus, puis lui a dit, « Autrement dit, tu veux dire que moi, je marche pas avec le Seigneur, etc., etc., etc. » Cette plaisante conversation-là s'est poursuivie longtemps, mais ça n'a jamais mené nulle part, comme on peut s'en douter. Le jeune pasteur, lui, désirait une soumission complète, aveugle, inconditionnelle de la part de ce croyant-là. Puis le croyant, lui, voulait simplement qu'on lui laisse la liberté de conscience, qu'on le laisse respirer un petit peu spirituellement. Certains leaders le demandent pratiquement à leurs membres de renoncer à toute individualité chrétienne, se sentir menacé par les opinions qui diffèrent des nôtres. C'est une forme de paranoïa, puis une grave déformation de leadership. J'ai personnellement connu des pasteurs qui étaient des véritables papes dans l'Église, toujours en train de commander des choses ou d'en interdire d'autres, de contrôler tout le monde, puis d'essayer de faire marcher tout le monde à la baguette. Puis le pire, c'est que si les gens osaient s'en plaindre, ils étaient immédiatement libellés comme des rebelles, puis comme des faiseurs de troubles dans l'Église. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, a dit Jésus. À un moment donné, il y a eu un dîner spécial pour les pasteurs puis les ouvriers de différentes églises à Drummondville, je pense. À l'autre table devant la mienne, j'entends un des pasteurs dire à un autre, « J'ai dit à ma congrégation, c'est moi qui ai le pasteur ici, puis vous allez m'endurer, vous le voulez ou non. » Bon, moi, les cheveux m'ont dressé sur la tête quand j'ai entendu ça, je veux dire, ça se peut-tu. Certaines dénominations, laisse pas les pasteurs être votés par l'Église. Ils sont simplement mis en place par leur organisation, point final, puis il n'y a pas de discussion avec l'Église. Bibliquement parlant, c'est pour une raison ou une autre, une assemblée veut pas ou ne veut plus d'un pasteur, cet homme-là n'a aucun droit de s'imposer puis de rester là. Je m'excuse, c'est pas biblique, ça. On va lire quelques citations tirées du livre de W.J. Schnell, 30 ans esclave de la tour de garde. On va voir un petit peu plus clairement ce que c'est qu'exercer une mauvaise autorité. À la page 16, il dit « Au lieu de la direction de l'esprit, nous entendions la voix autoritaire des dirigeants de la Watchtower. Toute liberté personnelle avait été remplacée par une loyauté aveugle au règlement de la société. » À la page 37, il dit « Si quelqu'un voulait gravir les échelons, il devait garder ses idées pour lui-même. » À la page 38, il dit encore « J'appris que si les gouvernements du monde permettent à leurs citoyens d'être objecteurs de conscience, la société Watchtower n'accordait certainement pas ce privilège à ses membres. Même aujourd'hui, si quelqu'un ose contester une chose enseignée par la société, il devient automatiquement un méchant serviteur. Ni miséricorde, ni tolérance, ni respect de la conviction de quelqu'un ne sont permis. » Bon, puis tout ça, les amis, il y a malheureusement pas rien que chez les témoins de Jéhovah que ça se passe, hein. Beaucoup de chrétiens sont juste pas capables de faire la différence entre la soumission puis l'asservissement, puis ça c'est triste. En 2 Corinthiens 11, 20-21, l'apôtre Paul dit « Si quelqu'un vous asservit, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un vous frappe au visage, figurativement bien sûr, vous le supportez. J'ai honte de le dire, nous avons montré de la faiblesse. » Bon, se laisser barouetter là, à ce point-là, Paul n'appelait pas ça de la soumission ou de l'humilité, il appelait ça de la faiblesse. Selon le dictionnaire, asservir, ça veut dire faire sentir abusivement son autorité. La soumission peut être libre, spontanée et volontaire, elle peut aussi être contrainte et forcée. Asservir exprime une idée de contrainte. Alors c'est beau la soumission, mais Dieu ne demande pas de sacrifier notre dignité non plus. David Johnson est un psychologue chrétien qui travaille à plein temps à essayer de soigner des chrétiens qui ont souffert d'abus d'autorité sous une forme ou sous une autre dans leur église. Dans son livre « La subtile puissance de l'autorité spirituelle », il a écrit « Il est possible de devenir tellement déterminé à défendre notre poste d'autorité que nous serons prêts à blesser et à maltraiter quiconque n'est pas d'accord avec nous. Il y a tel système spirituel dans lequel les gens, ce que les gens pensent, ressentent ou nécessitent n'a aucune importance. Les besoins des gens ne sont pas remplis. À l'intérieur de ces systèmes, les gens sont là pour rencontrer les besoins de leurs leaders, besoins de prestige, d'autorité, d'importance et de valeur. Ceci est une inversion dans le corps de Christ. C'est de l'abus spirituel. » Bon, en Matthieu 11, 12, Jésus a dit, « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. » S'en emparer dans le sens d'en prendre le contrôle ou d'en garder le contrôle. La parabole des vignerons en Matthieu 21 nous fournit un exemple de cette violence dont parle Jésus. Les vignerons qui cherchaient à se rendre maîtres de la vigne représentaient les chefs religieux qui repoussaient les envoyés de Dieu à l'époque. Les chefs religieux du temps de Jésus cherchaient à s'emparer du contrôle de la vigne de Dieu qui est son peuple, puis à s'efforcer d'en demeurer les maîtres en imposant le silence aux hommes que Dieu envoyait, par le biais de la persécution ou de la calomnie. Moi, je vois clairement dans ce texte-là une allusion aux pharisiens qui ont persécuté puis rivalisé avec Jean-Baptiste et avec Jésus dès le commencement de leur ministère. Les pharisiens cherchaient à s'emparer de l'autorité sur le peuple de Dieu. Les pharisiens ont fait beaucoup d'efforts pour conserver leur autorité sur le peuple parce que l'enseignement de Jésus tendait à libérer les gens du joug de leur mauvaise autorité, pas mal un peu fort à leur goût. En tant que leader, de quelle façon est-ce qu'on exerce notre leadership à l'intérieur de l'Église? Est-ce qu'on cherche à dominer en établissant notre autorité sur l'Église par le biais d'un enseignement qui laisse comme unique alternative qu'une soumission sans condition? Bon, l'homme qui agit comme ça n'est pas un vrai pasteur, mais rien qu'un pauvre mercenaire qui travaille pour lui-même. C'est ça la vérité. Heureusement, des pasteurs comme ça, il n'y en a pas des tonnes. Généralement, les pasteurs sont des hommes qui aiment les gens, sinon ils ne seraient pas là. Ben, c'est ça que je pense, à mon avis. Le leader peut être amené à diriger l'Église selon l'Esprit de Dieu ou selon l'Esprit du monde. En Éphésiens 1:20, les démons sont appelés les dominations. C'est intéressant comme terme. Cette tendance à dominer est directement inspirée par un esprit mauvais, c'est ma conviction. L'Esprit Saint conduit les gens, tandis que les démons cherchent à dominer. L'Esprit Saint dirige les croyants, en les enseignant, en leur montrant l'exemple, puis en leur communiquant de la grâce. Certains mauvais leaders le font en établissant leur autorité avec fermeté, puis en exerçant différentes formes de pression à travers leurs sermons, prenez les gens à leur obéir. Frères et sœurs, laissons pas de faux sentiments de culpabilité troubler notre relation avec Dieu. Être d'une autre opinion que notre pasteur, c'est pas de la rébellion. Des fois même, c'est rien que du bon sens. Tout le monde a le droit de posséder ses propres opinions, mais faut faire attention à ce qu'on fait de notre opinion, évidemment. Si on se met à monter debout sur les tables, puis à nous quereller, ou si on fait le tour des membres de l'Assemblée par en arrière, puis qu'on fait du grabuge, là, on commet un péché pas mal grave, par exemple. Quand je dis qu'on peut avoir notre opinion, c'est pas de ça que je parle. Je veux simplement dire qu'on a le droit d'avoir nos propres convictions personnelles, puis personne n'a le droit de nous enfoncer les siennes dans la gorge, même si c'est un pasteur. Prenons seulement garde de ne pas faire de notre liberté un prétexte de vivre selon la chair. En 1 Corinthiens 14, 37-38, Paul a écrit « Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur, et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. » Pas mal intéressant ce texte, il y a beaucoup de choses là-dedans. Quand il s'agit de donner certaines directions à l'Église, les pasteurs doivent avant tout chercher à obtenir la pensée de Dieu. C'est ça le plus important. Le travail de pasteur, c'est ensuite de prier pour que l'Église développe une plus grande sensibilité à l'Esprit de Dieu, puis qu'elle reconnaisse, comme le disait Paul dans notre texte, la voix de Dieu quand il l'entend. Quand le pasteur croit avoir trouvé la pensée de Dieu à propos d'une chose ou d'une autre, il doit ensuite la transmettre à l'Église. Mais attention, il s'agit de la transmettre, pas de l'imposer. L'apôtre Paul n'a pas cherché à imposer à l'Église ce qu'il venait de leur dire, mais il leur accorde le droit, entre guillemets, de ne pas être d'accord avec lui, puis même d'ignorer ses recommandations. Maintenant, c'était sûrement pas sage d'ignorer les directions de Paul, surtout quand il s'agissait d'un commandement du Seigneur, comme il dit. Mais il ne pouvait quand même pas forcer les gens à obéir au Seigneur non plus. En tant que leader, prenons pas les choses trop personnellement, puis fâchons-nous pas à la place de Dieu. Si ce qu'on apporte vient vraiment du Seigneur, puis que les gens méprisent notre message, laissons-les faire, on aura fait notre devoir. Leur croissance spirituelle va en souffrir, puis ce ne sera pas notre faute. Quand notre parole vient de Dieu, puis que les gens ne l'écoutent pas, ils se punissent eux-mêmes, en réalité. Puis on n'a souvent pas besoin d'en ajouter par-dessus. Nourrissons pas d'amertume, soyons pas frustrés pour ça. À part de ça, si on s'arrête seulement une petite minute là, pour considérer le nombre de nos propres infidélités envers Dieu, on ne sera pas porté à juger les autres trop sévèrement. Souvenez-vous de ce que Dieu a dit à Samuel quand le peuple l'a rejeté, puis qu'il voulait un roi à la place. En 1 Samuel 8, 4 à 9, ça dit, « Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Et ils dirent, « Voici, tu es vieux. Maintenant établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y a chez toutes les nations. » Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et Samuel pria l'Éternel, « L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard, comme ils ont toujours agi, depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui règnera sur eux. En d'autres mots, Dieu y a dit, range ta frustration, mon Samuel, puis accepte les choses que tu peux pas changer. Donne-leur ce qu'ils demandent, puis ils paieront pour, c'est tout. Je répète encore, 1 Corinthiens 14, 37-38, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur, et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Paul ne voulait pas d'une obéissance aveugle. L'obéissance doit avoir pour base la conviction de la volonté de Dieu. Le but du pasteur doit être de chercher à amener les croyants à plus de soumission envers Dieu, à plus de docilité à son esprit, puis à l'amener à faire courber sa volonté à la douce voix intérieure de l'Esprit de Dieu. En tant que conducteur spirituel, on doit encourager les croyants à avoir de la bonne volonté, puis à reconnaître humblement ce qui vient du Seigneur à travers nos exhortations. On doit surtout les exhorter à se soumettre à la voix de Dieu qui est dans leur conscience, pas nécessairement à tout ce qu'on dit. En 1 Jean 2,16, l'apôtre Jean a écrit, « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. » La parole vivante a rendu l'orgueil de la vie par la puissance, la soif de puissance, c'est-à-dire le plaisir que l'homme éprouve à dominer, puis à contrôler les autres, puis à être leur chef. L'apôtre Jean nous dit que ces choses-là viennent du monde. L'apôtre Jean nous dit aussi de ne pas aimer le monde. Il fait référence à la mécanique selon laquelle le monde fonctionne, aux moyens honteux que les gens utilisent des fois, puis aux moyens indignes dont ils font usage pour arriver à leur but. Trompez-vous pas, s'imposer, c'est pas de l'autorité spirituelle, c'est de l'orgueil. Cette sorte d'autorité-là vient du monde, puis de la chair, ça vient pas de Dieu. En Tite 1,7, Paul dit que l'évêque doit pas être arrogant. La parole vivante rendue, il ne doit être ni imbu de lui-même, ni autoritaire. En 1 Pierre 5,3, Pierre dit de son côté que les anciens doivent exercer leur ministère non comme dominant. La parole vivante a encore rendu ce texte par « n'exercez pas un pouvoir autoritaire ». Il y a une énorme différence entre quelqu'un d'autoritaire et quelqu'un qui possède de l'autorité spirituelle. En fait, il y a autant de différence entre ces deux choses-là qu'il y en a entre la lumière et les ténèbres, si vous voulez mon avis. C'est rien que l'orgueil qui rend un homme autoritaire. C'est pas Dieu, c'est pas le Saint-Esprit. Les hommes orgueilleux ont une nature dominante, puis ils aiment pas à être contestés, c'est un fait. À défaut de posséder une autorité authentiquement spirituelle, ils doivent avoir recours à des moyens charnels pour combler leurs lacunes. Ils s'attribuent alors eux-mêmes l'autorité de régner dans l'Église, puis le droit de faire toutes les règles. Par exemple, dans une certaine église, il y a plusieurs années, les chrétiens avaient coutume de sortir une fois par semaine l'été pour évangéliser. Bon, le leader obligeait les gens qui voulaient participer à cette sortie-là de porter une cravate. Il y avait dans sa tête, là, c'est ça. On fait cette règle-là. Je vous dis que ça prend pas grand-chose pour mettre le diable dans la cabane. Si vous voulez pas porter de cravate, qui disait, restez chez vous. Bon, je dis pas que c'est pas une bonne idée de porter une cravate quand tu évangélises. Il faut comprendre qu'il y a des gens pour qui le port de la cravate n'est pas du tout dans leur habitude vestimentaire, puis qui se sentent pas mal mal à l'aise, ils se sentent pas bien du tout porter ça. Surtout l'été, en plus, quand il fait chaud. Les habitudes vestimentaires, il me semble, moi, que c'est pas dur à respecter, ça. Imposer ce genre de règlement-là, c'est rien que bon pour irriter les gens, puis les décourager de s'impliquer dans l'Église. Il y a des pasteurs qui se prennent pour le buisson ardent dans l'Église. Ils suggèrent pas des choses, ils les commandent. Puis pour venir à la cravate, je veux dire, je connais pas personne, moi, qui a été converti par une cravate. Je connais pas mal de monde qui ont été convertis par l'Évangile, par Jésus-Christ, mais par des cravates, j'en ai jamais connu. Si vous en connaissez, écrivez-moi et dites-moi-les. Là. J'aimerais ça les connaître. Bon, l'apôtre Jacques a écrit, « Un seul est législateur. » Le dictionnaire dit qu'un législateur, c'est une personne qui fait les lois, qui donne des lois à un peuple. Alors, aucun pasteur au monde possède suffisamment d'autorité pour ajouter des règles, puis de les donner comme si c'était des lois de Dieu, comme des sortes d'obligations. Si une règle quelconque dans l'Église n'a pas de précédent biblique, cette règle-là devient un précepte humain et un commandement d'homme, puis le croyant n'est pas obligé devant Dieu de se soumettre à ça. Les conducteurs qui ont une tendance autoritaire n'ont pas toujours une mauvaise intention, bien sûr, mais doivent comprendre qu'en imposant leur leadership, puis en cherchant sans cesse à établir leur autorité dans l'Église, ils se rendent odieux puis indignes de leur maître qui était doux et humble de cœur. Une attitude autoritaire révèle qu'on manque encore d'autorité spirituelle réelle, puis qu'on ne mérite pas encore complètement la confiance des gens. Si on désire vraiment que notre caractère ressemble à celui de Jésus-Christ, on va devoir apprendre à conduire les gens avec douceur. On ne va pas inventer puis imposer des règles inutiles dans l'Église, puis on ne va pas leur laisser de... Puis on va au contraire leur laisser de bon cœur la liberté de choisir de nous obéir ou non. Puis on ne forcera pas leur conscience. Puis on ne va pas chercher à les culpabiliser non plus. Quand on considère l'histoire du déclin spirituel de beaucoup de mouvements évangéliques à travers l'histoire, on remarque toujours d'abord qu'il s'est créé lentement une distinction entre les ministères puis les membres ordinaires de l'Église, entre guillemets. Plus un mouvement rétrograde, plus cette séparation-là devient prononcée et évidente entre le clergé puis les autres chrétiens. Le clergé est toujours un petit peu plus haut que le reste. Il ne s'agit pas d'une coïncidence historique, mais d'un simple rapport mathématique. Plus les hommes prennent le contrôle dans l'Église, moins l'Esprit de Jésus en a. C'est aussi simple que ça. C'est ce qui arrive dans chaque mouvement ou dans chaque Église locale où l'ordre spirituel biblique puis l'autorité du Saint-Esprit n'est pas respectée. Quand les hommes veulent prendre le contrôle dans l'Église, l'Esprit de Dieu offrira jamais une grande résistance. Il y a peut-être un petit chrétien qui va parler dans le fond de l'Église, là, qui a compris quelque chose du Seigneur, mais souvent, ça va être repoussé comme une petite poussière. Bon, je répète que l'Esprit de Dieu offrira jamais une grande résistance. Comme une colombe timide, au contraire, l'Esprit va s'envoler en silence, puis va laisser la place aux hommes qui sont avides de diriger la barque. C'est pour ça que la question de l'humilité, de la douceur, puis de l'enseignabilité à l'intérieur du leadership est si importante si on veut garder l'Esprit du Seigneur au milieu de nous autres. Une attitude comme celle de Diotrephe, par exemple, va littéralement chasser l'Esprit de Dieu de l'Église. On va en parler de Diotrephe un petit peu plus loin. C'était un type autoritaire, c'est un des exemples que la Bible nous donne et qui va nous instruire beaucoup. David Johnson a parlé de l'abus d'autorité, puis il explique qu'il existe des règles invisibles dans certaines églises, des règles muettes. Il a écrit « Personne, par exemple, durant une assemblée de l'Église, n'oserait dire tout haut « Comme vous le savez, nous ne devons jamais être en désaccord avec le pasteur ou avec ses sermons, parce que si vous l'êtes, il ne vous fera jamais plus confiance et il ne vous sera jamais plus permis d'exercer un quelconque ministère dans l'Église. » Dans ce cas, la règle invisible, c'est « Ne sois jamais en désaccord avec les autorités de l'Église, principalement le pasteur, ou ta loyauté sera sérieusement mise en doute. » Les règles comme celles-ci demeurent toujours secrètes parce que si elles étaient examinées à la lumière, elles révéleraient immédiatement combien illogiques, pernicieuses et antichrétiennes elles sont. Fin de citation. Pouvez-vous vraiment, pensez-vous vraiment que Dieu demande de nous autres d'être soumis dans des conditions pareilles? La parole vivante a rendu Romains 8,15 de la façon suivante. Vous n'avez pas reçu un esprit servile. L'esprit qui vous a été donné ne vous transforme pas en esclave. Beaucoup de croyants ont littéralement été abrutis par le concept de la soumission, d'une soumission exagérée qui leur a été enseignée. Beaucoup de gens préfèrent généralement se faire marcher sur le ventre à tous les jours, plutôt que de prendre les dispositions qui s'imposent pour faire renvoyer un pasteur dominateur, ou de s'en aller simplement eux-mêmes. Maintenant, est-ce que le croyant, je pose une question ici, est-ce que le croyant doit demeurer dans une église où le pasteur exerce une autorité abusive? Est-ce qu'un oiseau a le droit de s'échapper du filet qui tombe sur lui? Poser la question, c'est y répondre. La fausse crainte qu'inspirent souvent les hommes autoritaires empêche souvent les croyants d'élever leur voix puis de protester contre l'abus d'autorité. C'est pour ça que la situation subsiste toujours. Il y a des églises qui n'aiment pas du tout le pasteur qu'ils ont. Ils ne l'aiment pas puis ils n'en veulent pas. Mais pourquoi est-ce qu'ils le gardent? C'est parce qu'ils en ont peur. La fausse autorité spirituelle puise sa force dans la faiblesse des gens à réagir contre l'oppression. Celui qui fait du mal aux gens avec son autorité est définitivement pas digne d'en avoir. L'Église devrait lutter contre les tentatives d'asservissement clair. Abraham Lincoln a dit « Ceux qui interdisent la liberté aux autres ne la méritent pas non plus pour eux-mêmes. » En Galates 5.1, ça dit « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Il me semble qu'il y a suffisamment de servitude dans le monde sans souffrir encore de ça dans l'Église. L'Église doit avertir les mauvais leaders avec douceur. Puis si tous les moyens, comme le raisonnement, l'exhortation, puis la prière, ont déjà été utilisés sans succès, je crois sincèrement que l'Église devrait prendre des mesures disciplinaires dont Jésus a parlé en Matthieu 18:15-18, puis de prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour remplacer ce leader-là. C'est à l'Église à faire ça. C'est pas au bureau chef. Bibliquement, l'Église a le droit de choisir elle-même ses pasteurs, puis elle a le droit de les déposer également, s'ils ne se montrent pas dignes de sa confiance. Si les églises locales refusent de se prévaloir de ce droit-là, c'est eux autres qui vont être les pires. Edmund Burke a dit « La seule chose qui soit nécessaire pour que le mal triomphe, c'est l'inaction des hommes droits. » L'abus d'autorité, c'est un sujet tabou dans les églises, je le sais ça. Puis je ne vais pas me faire des amis à parler de ça, c'est moi qui vous le dis. Il suffit souvent de faire une simple allusion à ce problème-là pour être immédiatement mis sur une espèce de liste noire. Une partie importante, pourtant, du ministère du Christ était destinée à confronter le mauvais leadership de son époque. Confronter une mauvaise autorité, c'est pas seulement un droit, mais c'est un devoir pour le chrétien. Le croyant doit confronter l'abus d'autorité de la même façon que Jésus l'a fait. Maintenant, attention, je dis pas ça pour donner le feu vert à tous les petits rebelles, puis à tous les petits chioleux, puis à ceux qui sont jaloux de leur pasteur, là. On va vous dire une affaire. Les gens qui aiment chialer pour rien, qui font du trouble et qui ont une mauvaise attitude, la Bible recommande aux anciens de l'Église de le mettre dehors. Fait que c'est une épée à double tranchant, cette affaire-là. Dites ce que vous avez à dire, mais dites-le dans une attitude de douceur et de respect. Sinon, l'épée dont je parle peut se retourner contre vous autres, mes chers amis. Dans sa seconde épître, Jean a dit « J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. » Qui aime à être le premier, ça veut dire vouloir être reconnu comme le chef de l'Église, puis vouloir qu'on nous soit reconnu là, le droit de mener tout à notre guise, un peu comme un roi, dans son royaume. L'apôtre Jean avait écrit à l'Église aux soins du pasteur Diotrephe pour qu'il prévienne les croyants de son intention de leur rendre une petite visite prochainement. Il leur avait probablement aussi demandé l'hospitalité, il semble, à travers le texte. Mais on dirait que la première lettre de Jean s'est retrouvée dans la poubelle, puis que l'apôtre a reçu de Diotrephe une réponse clairement négative. En tant que pasteur, Diotrephe aurait dû, au contraire, se réjouir de l'édification que l'Église aurait reçue du ministère de l'apôtre Jean. Mais celui qui aime à être le premier éprouve généralement une grande difficulté à accepter que le troupeau soit nourri par quelqu'un d'autre, ou enseigné par quelqu'un d'autre, à moins qu'il s'agisse de quelqu'un qui est pareil comme lui, puis qui n'est pas une menace pour son leadership, pour son mauvais leadership. Le type qui aime la première place aime généralement sentir que les croyants sont dépendants de lui, puis il s'arrange généralement pour qu'il le reste très longtemps, le plus longtemps possible. Diotrephe appréhendait le fait que quelqu'un ait une plus grande influence que lui dans l'Église. Le ministère de Jean aurait fait de l'ombre au sien. C'est pour ça que la jalousie l'a poussé à priver l'Église du bénéfique ministère de l'apôtre. Notre texte continue. Il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'Église. Bon, son ambition à maintenir son contrôle sur l'Assemblée lui fait commettre des abus d'autorité, qui prennent la forme d'une discipline déplacée puis excessive. L'autorité sert à chasser des démons, peut-être, pas à chasser des chrétiens. Un ancien ou un pasteur n'a bibliquement pas l'autorité d'interdire un authentique croyant de faire partie de l'Église. Puis encore moins de l'en chasser. L'Église appartient au Seigneur avec tout ce qu'elle renferme. Quand Jean a reconnu la situation, là, il n'a pas demandé à Gaius de se soumettre quand même, puis de prier pour le pauvre Diotrephe, puis d'accepter les choses comme ça. Il lui donne au contraire le conseil suivant, « Bien-aimé, n'imite pas le mal. » En d'autres mots, l'apôtre Jean lui a demandé de ne pas participer au péché de Diotrephe, de ne pas se mettre d'accord avec lui, de ne pas faire ça, tu sais. De ne pas le laisser faire non plus, c'est-à-dire de ne pas continuer à le suivre dans cette voie-là, puis de cesser de lui obéir. Quand un pasteur marche selon la chair, l'Église n'est certainement pas dans l'obligation de lui être soumise. Bon, pour continuer à propos de la troisième épître de Jean encore, puis notre histoire de diatrèfle, l'apôtre Jean demande même pas à l'Église de prier pour lui. Étant donné l'orgueil puis le manque d'enseignabilité de la part de Diotrephe, la prière aurait sûrement rien donné de toute façon. L'apôtre Jean donne une très simple solution à ce problème-là, au problème de cette Église-là, qui est le remplacement. L'apôtre écrit « Tous rendent un bon témoignage de Démétrius. Nous aussi, nous lui rendons témoignage. » On se souvient que Paul avait aussi dit que pour devenir évêque, il fallait, entre autres, justement avoir un bon témoignage. En bref, il suffit simplement de lire entre les lignes un tout petit peu pour réaliser que l'apôtre Jean est en train de recommander à l'Église de démettre Diotrephe de ses fonctions, puis d'établir comme pasteur à sa place celui dont toute l'Église rendait un bon témoignage, c'est-à-dire Démétrius. La morale de cette histoire-là, c'est la suivante. Si le berger se change en loup, les brebis se défendent. Le problème de l'amour de la première place là, était pas nouveau dans les Églises, parce que l'apôtre Jacques a parlé à peu près de la même chose dans son épître, environ 30 ans avant que Jean en parle, en disant « D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez la première place, en d'autres mots, et vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir, vous avez des querelles et des luttes entre vous autres, justement, la course vers l'autorité. » Si on tient compte du contexte de ce passage-là, soit à partir du chapitre 3, verset 1, jusqu'au chapitre 4, verset 12, les luttes en question font référence à la rivalité qui existait entre les différents croyants de l'Église. Il s'agissait d'une lutte du genre de celle des disciples qui contestaient entre eux autres pour savoir qui était le plus grand et qui devait être reconnu comme pasteur en chef dans l'Église. Ces gens-là convoitaient le prestige d'être regardé comme étant l'homme en autorité dans l'Église. Dans leur esprit, il y avait un certain prestige à être pasteur. C'est de ça qu'ils étaient envieux, nous dit Jacques. C'est la raison d'être de beaucoup de mésententes puis de querelles entre croyants et pasteurs. Le pasteur prend de mauvaises décisions, l'Église n'est pas d'accord, mais étant donné qu'il est trop orgueilleux pour admettre ses torts puis de faire demi-tour, il s'endurcit, il impose sa façon de voir, en laissant sous-entendre que ceux qui sont pas contents, ils n'ont rien qu'à s'en aller. Bon, les amis, là où il y a un amour secret comme ça pour la première place dans le cœur, du ou des leaders d'une assemblée, c'est évident qu'il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions, nous dit Jacques. Parlons un petit peu de la démocratie. En Actes 14, 23, ça dit que Paul et Barnabas firent nommer des anciens dans chaque église. Pas eux autres qui les ont choisis. C'est pas eux autres qui les ont nommés non plus. Ils sont pas arrivés avec des gens déjà choisis par eux autres en disant « Tenez les amis, dites bonjour à vos nouveaux pasteurs. » Non, ils prenaient des gens qui faisaient déjà partie de l'église puis que tout le monde connaissait. Puis il laissait l'Église élire ceux qu'elle voulait comme pasteur. Le verbe nommer vient du grec chirotoneo, chair signifie la main, teino signifie étendre, élever. D'autres traductions vont aussi dans le même sens, comme la traduction Weymouth qui dit de l'Église que l'Église a voté à main levée, ces pasteurs-là. Il appartient pas aux pasteurs de choisir leur Église, mais à l'Église de choisir ses pasteurs. Les anciens furent ici nommés par l'Église. Idéalement, les anciens d'une assemblée doivent être choisis, éprouvés, acceptés, puis établis par l'Église locale même où ils sont. En cette occasion-là, Barnabas puis Paul voyaient probablement seulement à ce que les prétendants à la charge là, remplissent bien les préalables nécessaires à leur future tâche, puis qu'on retrouve dans 1 Timothée 3. L'établissement d'anciens était fait suivant une démarche démocratique. Puis c'est un principe qu'on voit à travers toute la Bible. Les 70 anciens du temps de Moïse ont été choisis par l'Assemblée. Vous lirez Deutéronome 1, 13, 14. De même que les 7 diacres de l'Église de Jérusalem ont été choisis par l'Assemblée. Actes 6, 3 et 6, 5. Les apôtres agissaient suivant le même principe dont Paul a parlé plus tard en Romains 12, 17, qui dit « Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes, c'est-à-dire tous les membres de l'Église. » En 2 Corinthiens 8, 19, 21, on voit encore le principe démocratique à propos de la collecte. Là. Le frère, qui de plus a été choisi par les églises pour être notre compagnon de voyage dans cette œuvre de bienfaisance, nous agissons ainsi afin que personne ne nous blâme au sujet de cette abondante collecte, car nous recherchons ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes, ou devant l'Église. Bon, mais c'est pas toujours ça qui se passe aujourd'hui. Je me souviens d'un pasteur, moi. Son organisation l'avait envoyé remplir un poste dans notre église. Il s'amène à un moment donné, puis il dit, c'est moi qui est votre pasteur, puis vous devez accepter que c'est Dieu qui m'a placé ici. Ça commence bien, hein? Il commence par se prêcher lui-même. Mais comment diable voulez-vous qu'on soit sûr que c'est Dieu qui a mis un type en place? Surtout s'il s'agit d'un type qui se met lui-même comme ça à la tête de l'église, puis qui n'a même pas passé par la marche à suivre qui est biblique. Bon, devant une situation comme ça, l'Église devrait dire, écoute-nous bien, mon petit bonhomme, tu vas nous montrer d'abord de quoi tu es fait, puis on va ensuite t'accorder l'autorité que tu mérites, si tu mérites d'en avoir. Comment voulez-vous faire confiance à quelqu'un qui se recommande lui-même comme ça? Il y en a qui revendiquent de l'autorité, qui s'établissent en poste dans l'Église, puis les pauvres chrétiens n'ont seulement pas le droit de les mettre en doute, puis ils doivent accepter bêtement là, que c'est Dieu qui les a mis en place. Voyons donc. Je m'excuse, là, mais ce serait bien trop facile, ça. Cette façon d'agir-là est totalement contraire au principe biblique. La vérité, c'est que Dieu accorde des dons ministères à certains croyants, puis sa responsabilité s'arrête là. Il appartient ensuite aux membres de l'Église locale de reconnaître puis d'établir les frères qui ont clairement l'onction de l'Esprit de Dieu dans leur vie pour remplir ce ministère-là. Une organisation ne peut pas envoyer un type inconnu, en plus, s'établir lui-même, comme l'Église romaine fait avec ses prêtres. C'est pas biblique, ça. David Johnson a écrit, « La première caractéristique d'un système religieux abusif est de se recommander soi-même. Cela signifie simplement que les leaders passent beaucoup de temps à mettre l'emphase sur leur propre autorité et à la rappeler aux autres. Ils doivent agir ainsi parce que leur autorité n'est pas réelle. Tout n'est que prétention. » Récemment, un jeune couple nous a raconté comment le pasteur d'une certaine église avait insisté pour que les membres considèrent ce qu'il disait comme si c'était le Christ lui-même qui l'avait dit. Maintenant, si l'autorité de ce pasteur avait été réelle, il n'aurait pas été nécessaire de demander tout le temps aux autres de le remarquer. Il n'aurait pas non plus été nécessaire pour lui de se placer lui-même dans cette position idolâtrique. Fin de citation. Un jeune pasteur a dit un jour à peu près ceci, à l'intérieur d'une de ses prédications. « Je suis l'autorité dans cette Église. Celui qui m'obéit, obéit à Dieu. Celui qui me désobéit, désobéit à Dieu. » Maintenant, est-ce qu'on réalise bien toute la portée que peuvent avoir des paroles comme ça dans le domaine pratique? Moi, quand j'ai entendu ça, si j'avais un dentier, je serais tombé par terre. L'arrogance de ces paroles-là s'apparente aux revendications papales. Le pape Léon XIII, en 1890, en parlant de lui-même, a dit « Le suprême enseignant de l'Église est le pontife romain. L'union d'esprit est dès lors nécessaire afin d'arriver à un parfait accord dans la foi. Est requise une totale obéissance et une complète soumission de la volonté à l'Église et au pontife romain comme à Dieu. » Ça se ressemble beaucoup. Le pape actuel, Jean-Paul II, a dit « Quiconque écoute les évêques, écoute le Christ. Quiconque les méprise, méprise le Christ. » On a ça dans le document conciliataire Concile Vatican II, page 41-42. En acte 20-30, l'apôtre Paul a dit à l'église d'Éphèse, « Il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. » Remarquez bien les mots « Il s'élèvera ». Premièrement, on voit que la marque d'une fausse autorité, c'est de s'élever elle-même en poste, au lieu d'attendre de faire ses preuves devant l'Assemblée, puis d'attendre que Dieu l'élève dans le ministère au temps convenable, comme le dit Pierre en 1 Pierre chapitre 5. Les suivre égale suivre Dieu, puis leur désobéir égale désobéir à Dieu selon eux autres. Dans des conditions comme ça, personne ne peut donc questionner leur décision sans se placer automatiquement sous la désapprobation divine, entre guillemets. Autrement dit, peu importe ce que tu peux leur reprocher, ils ont toujours raison, puis tu as toujours tort. Quand une organisation, là, se met à croire à la théocratie comme ça, les amis, attention, attention, c'est rendu loin, là. La définition du mot théocratie, c'est mode de gouvernement dans lequel l'autorité, censée émaner directement de la divinité, est exercée par une caste sacerdotale ou par un souverain considéré comme le représentant de Dieu sur la terre. Demandons tous à Dieu de nous aider à marcher humblement au milieu de nos frères, puis à pas chercher à leur imposer notre volonté comme ça, puis à se donner une importance démesurée, puis qu'on n'a pas en réalité aux yeux de Dieu. Il y a beaucoup plus de joie à marcher dans la douceur qu'à réussir à faire marcher tout le monde selon notre volonté. Quand on a un cœur chrétien, j'entends. Il y a des leaders qui ont définitivement une interprétation très malade de l'autorité. Je répète encore que ce n'est pas tous les pasteurs qui sont comme ça. Rendons grâce à Dieu. Il s'agit seulement de quelques mauvaises pommes à travers le loup, là. Mais je peux vous dire que ces quelques mauvaises pommes-là ont déjà fait souffrir beaucoup de gens. Le problème de la mauvaise autorité dans l'Église. Au début de ma vie chrétienne, je me suis posé des questions. C'était un problème qui me chicotait pas mal, puis je me demandais souvent comment ça se fait qu'on laisse des gens comme ça devenir pasteurs. Aujourd'hui, j'ai compris quelque chose. Il y a tellement de gens qui entrent dans les écoles bibliques que je comprends qu'il peut être difficile à un moment donné d'exercer un bon contrôle sur tout le monde. Je pense qu'il y en a trop qui vont là. D'un autre côté, je crois même que c'est permis par Dieu qu'il y a des mauvais leaders. L'apôtre Paul a dit en 2 Timothée 2, 20-21, « Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de pierre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. » La grande maison, ben, c'est l'Église. Il y a des conducteurs spirituels qui sont des exemples à imiter, puis d'autres qui sont des désexemples à pas imiter. Puis je pense que c'est une bonne chose qu'on ait les deux devant les yeux, afin qu'on puisse bien faire la différence puis apprécier ceux qui sont véritablement des modèles de Jésus-Christ. Dieu se sert des deux sortes de vases pour sa plus grande gloire. N'empêche que personnellement, j'aimerais bien mieux être un vase d'honneur qu'un vase d'usage vil entre les mains de Dieu. En Matthieu 20, 25 et 26, Jésus a dit à ses disciples, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. » Maintenant, de quelle façon un pasteur est-il le serviteur de l'Église? En lui apportant des études bibliques le dimanche? Oui, mais ça, c'est juste la partie agréable. C'est agréable de s'écouter prêcher, pas vrai? Il n'y a pas beaucoup de sacrifices là-dedans. Alors même que ça peut très facilement devenir un exercice bien plus glorifiant qu'autre chose. Être un serviteur, ça a rapport avec l'attitude générale qu'on prend à diriger l'Église. Le serviteur n'imposera pas son leadership. Il n'imposera pas les visions ni aucune autre direction qu'il va croire venir de Dieu. Il va chercher à complaire à l'Église au lieu de chercher toujours l'accomplissement de sa propre volonté pour elle. Il n'essaiera pas d'élever l'autorité de son ministère dans le but de soumettre les gens puis de mieux pouvoir les contrôler. Il ne sera pas têtu, ni suffisant, ni autoritaire, mais il va au contraire être enseignable vis-à-vis des autres membres de l'Église, puis il va écouter avec humilité ce que les gens auront à lui dire ou à reprendre en lui, quelquefois. Un pasteur qui ne se laisse pas reprendre par les autres chrétiens, c'est un pasteur malade. OK? Le pasteur serviteur ne méprisera pas ceux qui sont indépendants de lui. Il ne va pas exiger son soutien financier des pauvres non plus. Il va faire tous ses efforts pour ne pas blesser les gens quand il va enseigner. Il va avoir de la condescendance, puis il va user de patience dans l'enseignement. Il ne cherchera pas à éperonner les gens pour les faire avancer plus vite. Il n'interprétera pas l'Écriture d'une façon arbitraire non plus. Il n'imposera pas ses positions doctrinales, mais il va manifester du respect vis-à-vis celles des autres membres de l'Église s'ils sont différents des siennes. Puis il va les laisser posséder leurs propres convictions sans les pénaliser par en arrière ou d'une façon détournée, là. Les punir d'une certaine façon. Il va être miséricordieux, puis il va laisser les gens grandir à leur vitesse. Il va être un exemple de douceur dans ses relations avec les autres croyants. Jamais il va essayer de prouver puis d'établir qu'il est leur supérieur ou leur chef. Il va s'efforcer au contraire de faire honorer l'autorité de Dieu, de Christ et du Saint-Esprit dans l'Église. Voilà avec quelle attitude Paul, puis ceux qui étaient avec lui, exerçaient leur autorité chez les Thessaloniciens, par exemple. « Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'Évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères, notre travail, notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à charge à aucun de vous, à charge financièrement. Nous vous avons prêché l'Évangile de Dieu, par notre façon de vivre, autrement dit. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous, ce qu'un père est pour ses enfants. vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Pour conclure, j'aimerais simplement lire le Proverbe 20-28. La bonté et la fidélité gardent le roi, et il soutient son trône par la bonté. Que Dieu pardonne nos fautes, puis qu'il nous vienne en aide à tous. Amen.